Bonsoir Pierre, on se retrouve avec Achar Kelwazat, journal saoudien basé à Londres, qui nous fait tout un rappel sur le 15e anniversaire de la guerre civile libanaise qui a débuté en 2005, date à laquelle l'armée syrienne est entrée dans le palais de Baabdeh et où le ministre de la Défense, le général Michel Aoun, à l'époque Premier ministre, et le président libanais ont trouvé refuge à l'ambassade de France. Puis le 14 février 2005, c'est Rafik Hariri, qui est alors Premier ministre, qui est assassiné. Et pour Sam Menassa, qui nous écrit ces lignes de rappel de l'histoire, l'invasion de l'Irak par les USA en 2003 a été le facteur déclencheur de l'émergence des groupes islamistes qui ont placé le pays sous contrôle de l'Iran. Puis, on a le printemps arabe de 2011, la révolution contre Bachar el-Assad en Syrie, et s'ensuit l'arrivée dans l'échiquier local de la Russie. Donc, on a une partie à trois, la Russie, la Syrie et le Liban, tout en essayant effectivement de négocier avec les États-Unis. Les relations Amérique avec les alliés arabes, les accords d'Abraham, tout cela vient se greffer sur la crise libanaise, plus écrit le journaliste, l'éternelle chanson du conflit israélo-arabe. Il est rappelé tous les assassinats et enlèvements qui se sont déroulés dans la société civile libanaise, les deux guerres de 1978 et 1982 avec Israël, l'entrée de l'armée syrienne et des services de renseignement syriens qui ont totalement réorganisé le pays de 1976 à 2005, qui était la première guerre civile syrienne, la première guerre civile libanaise, et maintenant le Liban qui est placé sous hégémonie iranienne. Et écrit l'éditorialiste, demander aux Syriens et aux Palestiniens à l'époque de quitter le pays, c'était légitime et naturel. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile car il faut se défaire du contrôle iranien. Or, le délégué de l'Iran au Liban, c'est le Hezbollah, qui est totalement dépendant du pouvoir iranien et qui est son représentant, sauf qu'on ne peut pas dénier que le Hezbollah appartient au Liban. Donc, on n'est pas dans le même processus que dans la première guerre civile. Et puis, autre article sur l'illusion du processus syrien, et là, on parle de la relation entre les relations conflictuelles entre la Syrie et la Turquie. Et c'est Robert Ford, ancien ambassadeur américain en Syrie et en Algérie, qui fait le point. La Syrie actuellement rejette tout rapprochement avec la Turquie dans son conflit, alors que 59% des Turcs souhaitent la reprise des pourparlers turco-syriens. Il faut là aussi s'attendre à un jeu à trois, russe, turc, syrien. Assad, lui, ne veut rien savoir d'Erdogan, le président turc. Les Russes font pression sur Assad pour qu'il reprenne les négociations. Le ministre des Affaires étrangères des Émirats est venu il n'y a pas très longtemps en visite à Damas et on suppose que dans le cadre de ses entretiens avec Bachar el-Assad, il a demandé à ce que la Syrie accepte de rencontrer de nouveau les dirigeants turcs sur le même mode opératoire américain, celui qui est utilisé pour régler le conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire avec une multiplication de groupes de travail et de rencontres bilatérales. On ne sait pas ce que Bachar el-Assad a répondu, mais on pense que ça n'a pas été positif. Les difficultés sont que les difficultés qui sont entre la Turquie et la Syrie sont différentes de celles du conflit israélo-palestinien. La Turquie veut l'arrêt du flot de réfugiés syriens qui se présentent à sa frontière. Ankara, par ailleurs, refuse une nouvelle offensive syro-russe au nord d'Alep. Et le ministre de la Défense turque n'arrêtera pas l'élimination de ce qu'il appelle les terroristes, qui sont en fait l'opposition kurde, et notamment tout ce que les Kurdes du nord de la Syrie sont accusés par la Turquie, d'autant qu'on les accuse d'être les alliés numéro un des opposants turcs, c'est-à-dire le Parti des travailleurs kurdes. Et puis, on a toujours dans Achar Kelwazat une interview exclusive du Premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani, qui annonce que l'Irak et l'Arabie saoudite forment l'axe de la stabilité régionale et mondiale. Et je précise, c'est un interview exclusif. Il révèle donc qu'une coordination serait mise en place irako-saoudienne qui porterait des projets sur 3 ans. Il reste des interrogations. Quel rôle Bagdad joue dans le dialogue irano-saoudien, sachant qu'entre l'Iran et les Saoudiens, ça va très mal aux frontières? Le premier ministre irakien réfute toute ingérence extérieure dans la formation de son gouvernement actuel, qui, dit-il, est stable déjà depuis plus de 100 jours. Il réfute une ingérence américaine, il réfute une ingérence iranienne et assure que les Irakiens sont totalement autonomes politiquement. La corruption serait la pire pandémie pour l'Irak, selon lui, pire que la Covid-19, et il énumère des chiffres dont je ne suis même pas capable de vous retranscrire, tellement il y a de zéros et qui se chiffrent en billions, pas en millions, en billions de dollars. De bonnes relations, selon lui, avec les États-Unis. Et puis, un article dans L'Orient le Jour qui nous rapporte que trois rapporteurs de l'ONU veulent accuser ou décider d'accuser Israël de domicide. Alors, je précise, domicide s'écrit D-O-M-I-C-I-D-E, à ne pas confondre avec homicide, et vient du terme latin domus qui signifie maison, c'est-à-dire c'est détruire les maisons. Et ces rapporteurs qui viennent de l'ONU mais ne s'expriment pas au nom de l'ONU sont mandatés par le Conseil des droits de l'homme, et l'un des rapporteurs mentionne que le domicide soit reconnu comme un crime spécifique de droit pénal et international, préconisation qu'il avait déjà formulée en décembre 2022. Et puis nous allons conclure avec Maroc Hebdo, mais sur un long message du roi du Maroc, message donc de Mohamed VI, qui a appelé à une alliance mondiale pour protéger Al-Quds, Jérusalem, qui signifie la ville sainte en arabe. Il s'agit d'un message adressé à la conférence pour la protection et le soutien à Al-Quds, qui s'est ouvert ce dimanche au Caire. Nous appelons toutes les forces ralliées au pacifisme et aux valeurs de tolérance et de coexistence en vue de protéger la cité de la paix et de partager et de préserver son patrimoine culturel commun à toute l'humanité. Je tiens à préciser que ce message est très long, mais qu'il y faut toute votre attention pour comprendre effectivement comment on entre dans les détails de la gouvernance arabo-palestinienne sur Al-Quds. Il faut, dit-il, faciliter les initiatives diplomatiques impactantes et les actions de terrain conduites au sein même de la ville sainte, c'est-à-dire que le roi du Maroc demande que les actions se mènent sur le terrain à Al-Quds. C'est ainsi que donc est nommé Jérusalem. Le comité Al-Quds, qui relève de l'Organisation de la coopération islamique, demande à ce qu'on préserve le cachet civilisationnel de la ville. 200 projets sont réalisés pour 65 millions de dollars, tous financés à 100% par le Maroc. La ville sainte est la première cause nationale, réaffirme le roi du Maroc dans son message, première cause nationale du Maroc. Sa protection est un principe intangible de la politique extérieure du Maroc. Il réaffirme également le soutien à la cause palestinienne, tout cela dans un message lu ce dimanche. Une question fondamentalement politique pour lui, la question palestinienne, et il faut réaffirmer la solution pour deux États. Il est donc urgent de débloquer la situation politique et il insiste, préserver la ville sainte de Jérusalem, Al-Quds, Al-Sharif, comme patrimoine commun de l'humanité, et le roi appelle donc à une mobilisation collective. Toutes les mesures, écrit-il, unilatérales qui cherchent à imposer un état de fait sont illégitimes et compromettent le statut juridique de la ville. Toute tentative d'altérer sa structure démographique doit être condamnée. Les actions systématiques menées au grand mépris du droit international sapent toute possibilité de parvenir à un règlement durable. Puis il rappelle que les extrémistes de part et d'autre profite de l'arrêt des négociations israélo-palestiniennes, qu'il y a un risque d'une véritable confrontation religieuse qui serait désastreuse pour la région, car ce serait en fait un terrain de guerre totale. Le roi réaffirme son soutien plein et entier au président palestinien Mahmoud Abbas. Eh bien, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Salam, shalom.